Dispositif de sécurité maximale sur le tronçon de RP1 à hauteur de Saint-Louis. Des convois de 10 véhicules sont escortés par la gendarmerie. Les Mondoriens se réapproprient doucement l'axe routier après 150 jours de fermeture. Hausse du chômage, entreprise radiée, augmentation du coût de la vie. L'ISEE a publié un premier point sur les conséquences économiques des émeutes. 128 jeunes à la découverte du service national universel, 64 garçons et 64 filles étaient rassemblés ce matin au lycée La Pérouse pour s'imprégner des notions citoyennes et des missions des forces armées. La province sud relaie l'opération Octobre Rose sur l'ensemble des communes de son territoire. Des ateliers d'autopalpation sont organisés pour enseigner ce geste simple aux femmes. C'était le cas ce matin à Dumbia. Le CCAS lance des événements dans le cadre de la Semaine Bleue. Aujourd'hui, un goûter dansant était organisé à l'ACAPA pour le plus grand plaisir des seniors. Et puis dans le Mac des Sports ce midi, nous avons parlé des jeunes golfeurs calédoniens qui brillent à l'étranger. On en reparle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Des convois de voitures escortées par des gendarmes, des forces de l'ordre déployées le long de la RP1 devant Saint-Louis pour une circulation qui se fait par alternance. C'est ainsi que la réouverture partielle de l'axe routier menant au Mont d'Or Sud a été maintenue ce lundi. La traversée se fait sur des plages horaires établies de 6h à 9h le matin, de 15h à 18h l'après-midi. Quelques automobilistes avaient décidé de passer ce matin malgré le dernier vol de véhicules avec violence survenu samedi soir. Les avis sont contrasté en ce qui concerne la sécurisation de la route après 150 jours de fermeture de la RP1.
J'habite au Mont d'Or, alors oui, on va y décider d'y aller un peu, on va essayer. Voilà.
Je l'ai déjà fait ce matin.
Oh, ça va.
Ça fait peur, mais ça va. Oui, oui, il n'y a pas de souci.
La peur n'évite pas le danger, on va dire. Donc on va pas s'arrêter de vivre.
Pas de souci, on y va. Ouais, ben on verra bien. Espérons.
Je fais pas la traversée parce que je préfère attendre ici et que les gens sortent. Surtout que là, j'ai un enfant, c'est pas sécurisé pour moi. C'est compliqué et même pour les habitants aussi, vu que là, je viens chercher des habitants de la tribu. Non, moi, c'est impossible de rentrer et les récupérer. Je préfère les attendre dehors.
Là-bas aussi, ils sont pas rassurés. Ils espèrent que ça va s'arranger.
Oui, ils sont pas rassurés. C'est pareil.
Je passe tous les jours parce que je suis de Saint-Louis. Ben, l'attention a vraiment retombé par rapport au début. Mais il y a toujours des petites exactions, donc il faut que les gendarmes fassent leur travail, quoi.
On rappelle qu'hier, après le carjacking qui avait surpris et suscité une grande indignation, une nouvelle intervention des gendarmes a permis d'interpeller cet individu à Saint-Louis. Il n'y a pour le moment pas de nouvel incident signalé. La RP1 reste donc ouverte partiellement de 6h à 9h et de 15h à 18h, seulement si les conditions de sécurité pour les automobilistes peuvent être assurées. La province sud, de son côté, maintient son service de navette maritime.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, va-t-il être possible un jour de sécuriser durablement la circulation sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Le gouvernement peaufine son plan de sauvegarde, de rénovation et de reconstruction. Il a décidé, Elisabeth Noir, de reporter d'une semaine la conférence dédiée au SP2R.
Elle devait avoir lieu à l'UNC les 10 et 11 octobre et elle se tiendra finalement les 17 et 18 octobre au Centre culturel Tchibaou. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le président du gouvernement, Louis Mapou, accompagné de Yannick Slamette, de Christopher Gégès et de Michael Forest. Et pourtant, ils affirment avoir bien avancé sur ce plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction qui se décline en quatre grands modèles, l'économique, la santé et le social, l'institutionnel et le sociétal. L'objectif est de parvenir à un consensus sur les mesures de soutien et sur les réformes à entreprendre pour définir un nouveau modèle de développement pour la Nouvelle-Calédonie. Cette démarche a été lancée au mois d'août à l'occasion de l'examen du budget supplémentaire et le gouvernement a déjà tenu 3 séminaires sur le sujet. Il a aussi lancé une plateforme de consultation en ligne qui a réuni quelques 3000 contributions. Toutes les collectivités ont participé et certaines ont demandé un peu de temps, ce qui a conduit, explique Louis Mapou, au report de la conférence prévue à l'origine cette semaine.
Nous sommes rendus aujourd'hui à une étape qui, pour moi, a déjà répondu à notre premier objectif, c'est de voir si la Nouvelle-Calédonie, on peut l'entraîner avec une adhésion la plus large possible. C'est le cas. Je dois dire que nous avons été les premiers surpris, parce qu'on était en période de crise, et le nombre de contributions montre qu'il y a une forte attente. Donc, on veut bien circonscrire déjà le périmètre des travaux qui nous ont été restitués, et nous avons décidé de poursuivre la consultation jusqu'à la fin de la semaine. semaine et de reporter la conférence de la semaine prochaine pour qu'on finisse les consultations. Parce que nous devons voir les collectivités cette semaine, notamment le GTPE et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais aussi, on doit revoir NCOCO, les syndicats, etc. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'on est très, très, très satisfait déjà de ce que nous avons obtenu.
Le gouvernement est déjà très satisfait de ce qu'il a obtenu et de l'adhésion qu'il ressent autour de ce plan. Cela justifie de prendre un peu plus de temps pour le travailler et l'améliorer. Et pour poursuivre la concertation, on peut prendre 8 jours supplémentaires, estime Louis Mapou.
Cette crise ne doit pas nous faire oublier que la Nouvelle-Calédonie, ça fait 5 ans que nous subissons un certain nombre de crises. Et de crise en crise, beaucoup de questions se sont accumulées, sans forcément qu'on ait apporté les réponses adéquates à chaque moment, parce que nous étions dans un délai très contraint. Donc cette occasion qu'on offre à la Nouvelle-Calédonie, c'est de pouvoir se poser. Ce sera le premier moment après les événements où on va essayer d'y réfléchir ensemble. Et on pense que, en tout cas c'est ma conviction la plus profonde, c'est que beaucoup de travaux, beaucoup de questions qu'on s'est posées, on atteint aujourd'hui un niveau de maturation qui est intéressant et qui peut nous permettre, que, si on travaille bien la semaine prochaine, de sortir quelque chose d'important et de déterminant pour que les gens puissent envisager la Nouvelle-Calédonie sur une autre base.
Le gouvernement va donc approfondir la concertation avant d'organiser ce séminaire sur le SP2R. Ce sera les 17 et 18 octobre au Centre culturel Tchibaou.
Et nous reparlerons de l'avancement des travaux sur le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction demain matin. C'est en effet le membre du gouvernement Christopher Gigès qui sera notre invité du matin, demain à 7h30. À son tour, la présidente du Congrès, Velma Falayo, adresse ses condoléances après le décès de Wilfried Mail. Elle rappelle son parcours professionnel, fait de détermination et de travail acharné qui reste, écrit-elle, un modèle pour tous. Il laisse derrière lui un héritage précieux, tant pour sa famille que pour toute l'industrie minière de Nouvelle-Calédonie, ajoute Velma Falayo, qui tient à saluer la mémoire de Wilfried Mail ainsi que son engagement sans faille pour le développement du secteur minier en Nouvelle-Calédonie. Les condoléances également du président de l'UC, Daniel Goa, qui dit avoir appris avec émotion le décès de Wilfried Mail, un militant de longue date, quelqu'un qui a toujours été aux côtés de l'Union calédonienne. Son départ vient perturber les projets qu'il portait pour le pays, indique Daniel Goa, qui ajoute que l'Union calédonienne adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches et encourage ceux qui prendront la suite à continuer de travailler dans l'esprit de Wilfried Mail. Condoléances enfin des membres du syndicat des exportateurs de minerais, le SEM, qui ont appris avec tristesse et émotion la disparition de leur cher collègue Wilfried Mail, gérant de MKM. Il rappelle qu'il a toujours été un ardent défenseur de l'activité minière et que dans les moments les plus difficiles, il a toujours pris ses responsabilités, n'hésitant pas à se mettre en avant pour soutenir des combats justes pour le bien de la profession. L'emploi salarié dans le privé au plus mal en Nouvelle-Calédonie. L'ISEE a fait le point sur les premières conséquences de la crise. L'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie a en effet publié une note qui révèle les premières conséquences des exactions sur l'emploi salarié dans le privé. Il faut savoir qu'avant le déclenchement de la crise de mai, l'emploi salarié privé était déjà en baisse de 2%. Au deuxième trimestre de cette année, le recul sera bien plus prononcé avec une perte estimée à près de 6000 emplois. Les précisions de Véronique Ogicas, chef du service conjoncture et diffusion à l'ISEE.
Voilà, au travers de ce premier tableau de bord, on souhaitait pouvoir bien distinguer les situations. 6 000 personnes qui ont perdu leur emploi entre le premier et le deuxième trimestre. Parmi elles, 5 000 qui sont indemnisées au chômage. C'est 7% de l'emploi salarié en mars. Et puis, un maximum de 19 000 personnes qui ont eu une prise en charge au titre du chômage partiel, au titre des exactions. C'est 29% de l'effectif salarié en mars. Mais ça n'a pas été 19 000 personnes en même temps. On arrive là à un niveau de à peu près 60 000 emplois salariés dans le privé. C'est à peu près le niveau qu'on avait en 2010.
Et à noter qu'en seulement 4 mois et demi, la Nouvelle-Calédonie a perdu 910 travailleurs indépendants. De son côté, l'ADI lance une campagne d'aide à la relance du travail indépendant face aux difficultés rencontrées par les lanceurs de projets et auto-entrepreneurs. Des rencontres et des aides financières sont mises en place, Charlotte Coulson.
Depuis mai dernier, l'Association pour le droit à l'initiative économique a réalisé près de 2000 entretiens visant à dresser un diagnostic de la situation des travailleurs indépendants suivis. Et sans surprise, près de 77% d'entre eux déclarent avoir été fortement impactés par la crise insurrectionnelle. L'ADI lance donc du 7 au 11 octobre une campagne d'aide. 34 événements sont organisés en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. On écoute les précisions de Ségolène Thomas, directrice régionale de l'ADI en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
L'idée, c'est vraiment de rencontrer, de renseigner des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui, dans le cadre de la crise actuelle, ont besoin de conseils sur comment redémarrer leur activité. Mais il y a aussi, évidemment, la partie financière qui est souvent le nœud de la difficulté. Et donc, on propose des packs relance, des prêts apports en capital en complément du microcrédit qu'on leur a accordé pour avoir des fonds supplémentaires, des prêts à taux zéro pour pouvoir redémarrer l'activité. L'enjeu pour nous aujourd'hui, parmi ces fameux 77% qui ont exprimé des difficultés très fortes au moment de la crise à maintenir leur activité et surtout aujourd'hui à redémarrer, c'est d'avoir la liquidité suffisante pour pouvoir reprendre, faire face aux différentes charges quand le chiffre d'affaires n'a pas encore repris son cours, on va dire, normal. Donc, ça leur permet de passer cette étape et surtout d'être en capacité de payer les charges et de reprendre petit à petit une activité florissante.
Une campagne qui a débuté aujourd'hui à Lifou ou encore à Boulari au Mont d'Or. L'agenda complet des interventions est à retrouver sur le site internet de l'association adi.org.
Il est 17h56. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord de ces 128 jeunes rassemblés au lycée La Pérouse dans le cadre de leur première journée du service national universel, le SNU. On se retrouve après une courte page de pub.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Isabelle Belquier.
128 jeunes étaient réunis ce matin à l'internat du lycée La Pérouse. Ils se sont tous portés volontaires pour réaliser leur service national universel et ils débutaient aujourd'hui leur séjour de cohésion, Charlotte.
64 filles et 64 garçons, originaires des quatre coins du Caillou, réunis sous les mêmes couleurs de la France. Pendant 12 jours, ils auront l'occasion d'en apprendre plus sur les institutions du territoire ou encore de découvrir les métiers des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est aussi et surtout l'occasion pour eux d'apprendre à vivre ensemble. Un message fort que portait ce matin le haut-commissaire Louis Lefranc, présent pour la cérémonie d'ouverture du séjour de cohésion.
Le vivre ensemble ici en Nouvelle-Calédonie, depuis le 13 mai, il a été très abîmé. Il pouvait y avoir des fissures qui existent dans un milieu aussi complexe que celui de la Nouvelle-Calédonie, mais là, il y a des fractures. Et donc, ces jeunes qui ont entre 15 et 17 ans, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'ils aient voulu faire ce stage de 15 jours. Ils vont forcément apprendre à se découvrir, à se connaître. Ils viennent de différentes provinces, ils ont une culture différente. C'est très beau à voir. Des Calédoniens de souche européenne, des Wallisiens, des Kanaks, des Métis. Ils vivent tous ensemble. Déjà, le fait effectivement de les voir tous rassemblés, c'est une source de réconfort. Le fait même qu'ils aient été tous volontaires, ils consacrent ces 15 jours à mieux se connaître, à découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas. Je trouve que c'est un bon signal. Donc c'est un signal que l'État doit encourager. C'est pour ça que je voulais être là ce matin.
Et le service national universel qui existe depuis 2020 en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit du premier territoire français à l'avoir expérimenté. Il se renouvelle donc cette année pour une quatrième édition. Et à cette occasion, était présent Velma Falaio, présidente du Congrès, ainsi que Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, et Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement qui est partenaire du SNU. Elle tenait elle aussi à rappeler l'importance de ce service national universel en Nouvelle-Calédonie.
Ce qui est important aujourd'hui et surtout dans le contexte actuel, c'est de voir que les jeunes sont volontaires. Ils sont issus des trois provinces. Il y a autant de filles que de garçons. Ils viennent de l'enseignement privé et public. Donc ils représentent vraiment toute la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Je leur ai rappelé également que même si c'était un dispositif national, ce qui est important, c'est qu'il est contextualisé à la Nouvelle-Calédonie. Donc ils vont pouvoir découvrir les institutions, ils vont pouvoir découvrir des thématiques aussi liées à l'environnement de leur île. Donc on les a tous encouragés dans leurs projets collectifs et individuels. On est très content que ce service national universel puisse se décliner en Nouvelle-Calédonie malgré la période que nous vivons. On est content d'avoir pris la décision de le maintenir.
Un événement qui a donc été maintenu, non sans difficulté. Il devait originellement y avoir 3 séjours de cohésion cette année et finalement il n'y en aura qu'un. C'est moins que prévu, mais déjà bien pour les jeunes volontaires présents ce matin. C'est surtout l'occasion pour eux de montrer que l'on peut encore croire en la jeunesse calédonienne.
Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font pas beaucoup de choses, il y en a quand même qui sont motivés. La preuve, on est quand même 128. Ça montre que malgré toutes les difficultés, on reste soudés et puis on arrive quand même à faire des choses. Ça amplifie la cohésion qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie.
Tu veux faire un métier dans l'armée quand je serai grand ? Du coup, bah voilà, je suis venu pour tester, quoi. Me faire des potes, sensibiliser et apprendre à vivre avec les autres.
C'est vrai qu'on est beaucoup sur nos téléphones et du coup, ce stage, ça va nous permettre de trouver d'autres solutions pour nous distraire, pour faire de nouvelles rencontres. Je savais qu'il y aurait des gens d'un peu partout, donc ça m'a motivée.
Plus tard, je vais aller dans l'armée. Et donc c'est pour voir un peu les différents métiers, pour découvrir un peu ces métiers qu'ils font les gens et peut-être découvrir ce que je vais faire plus tard.
Et le séjour de cohésion de ces 128 jeunes s'achèvera donc vendredi prochain. En 2025, il y en aura deux, un en juin et un autre en octobre.
La province sud continue de relayer l'opération Octobre Rose dans les communes de son territoire. Aujourd'hui, un atelier d'autopalpation avait lieu de 9h à 11h dans la maison de quartier d'Apogoti. L'objectif, faire la démonstration aux femmes afin qu'elles puissent reproduire chez elles ce geste simple mais souvent salvateur. Anne Dupont est sage-femme à la province sud. Elle était chargée d'animer cet atelier ce matin.
Le principe, c'est d'apporter de l'information aux femmes, aux hommes, hein, parce que le cancer du sein peut aussi toucher les hommes. Parce que l'autopalpation, c'est un geste qui est assez simple et qui permet de détecter facilement un cancer du sein. Ce cancer, c'est le premier cancer de la femme et plus tôt on va le détecter, mieux on va pouvoir le soigner. L'autopalpation peut commencer à peu près autour de 20 ans, en sachant qu'à 20 ans, on a des seins qui sont plus fermes, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est une fois par mois. Il faut que ça rentre dans la routine, en fait, à la douche. On fait d'abord l'examen visuel de la poitrine et après, on va palper les seins. Donc nous, aujourd'hui, on va expliquer comment on procède pour qu'après, les femmes elles puissent le faire facilement chez elles.
Le même atelier a été proposé ce matin à Boulary, à Dimbé. La prochaine date sera le 25 octobre. Ce sera au CMS de Dimbé à Surmer. Pour connaître les autres rendez-vous des autres communes de la province sud, vous pouvez consulter le site de la province, province-sud.nc. Pour ces vacances d'octobre, la ville de Dambéa organise des activités sport et culture. Des animations sont proposées aux enfants et aux jeunes de 7 à 17 ans. Charlotte Coulson.
Ce lundi, un groupe d'enfants et d'adolescents profite de ce panel d'activités, à la fois sportives et culturelles, au complexe omnisport de Coutiot. Théva Legras est éducateur sportif à la ville de Dambéa. Il encadrait ce matin un petit groupe d'enfants sur le thème « Mon île rêvée », une façon de stimuler l'imagination des plus jeunes dans un contexte grave. Une créativité déployée aussi dans les activités sportives. Les précisions de Théva.
Sur cette semaine, on est sur la thématique destination île rêvée. Donc on va essayer de mettre en avant la thématique, leur faire toucher du doigt. Donc il y aura de la confection de maquettes. On va essayer de construire un quiz imaginaire où on va vraiment faire parler les enfants, l'imagination des enfants. Et on va aussi, à travers les activités sportives, essayer de remixer un petit peu les activités sportives qu'on connaît, essayer de fusionner un peu des activités pour essayer de toucher un petit peu à l'imaginaire et sortir un peu du cadre des activités sportives qu'on propose habituellement. Sur l'activité football, par exemple, ce matin et cet après-midi, ils seront sur du basket. Et l'idée, c'est de créer un sport un peu imaginaire entre le foot et le basket, par exemple.
Et Germain, Victoria, Daryl et Anaïs sont âgés de 7 à 9 ans. Ils faisaient partie de ce groupe Mon île rêvée. Bus magique, fusée ou encore licorne, ils ne manquaient pas d'imagination ce matin.
Ils nous posent des questions sur une île de rêve et nous on doit dire des objets. Par exemple, s'ils nous demandent une maison, ben on va dire quelque chose. Et après, il va reconstituer les deux mots. Comme ça, ben, ça va faire une maison marrante.
Qu'est-ce que tu as comme idée, toi ?
Moi, j'ai dit une fusée. Pour quand je dors dedans, ben, en même temps, je vole. On va poser des questions. Par exemple, quel est ton transport habituel ? Ben, moi, j'ai déjà un bus pour me transporter où je veux.
Tu dois rêver une île que tu veux faire avec des animaux, une rivière, des avions, des chevaux. Plein de trucs.
Et ben moi j'ai 5 parties, une où il y a la maison, une autre où il y a la rivière, une autre où il y a la plage, une autre où il y a un parc et une autre où à l'endroit où il y a tous les frères et sœurs ensemble pour jouer ensemble.
Et les stages sport et culture de la ville de Dambéa sont organisés à Coutiot et à Katiramona. Deux grandes journées d'animation sont prévues les jeudis 10 et 17 octobre au Big Up Spot pour la première et à Katiramona pour la seconde. Des ateliers gratuits sont encore proposés dans les structures municipales. Plus d'informations sur le site de la ville dambéa.nc.
La ville de Nouméa organise sa semaine bleue consacrée aux personnes âgées. Cet après-midi, c'est à l'ACAPA que le Centre communal d'action sociale proposait un goûter dansant aux résidents des différentes structures d'hébergement de la commune. Les précisions de Clarisse Montabor, chef du service animation et action collective au CCAS de Nouméa.
C'est le moment pour eux de se retrouver autour d'une petite collation, un moment festif où ils peuvent se retrouver, danser, chanter, créer du lien en cet après-midi, cette semaine bleue. Et nous proposons également une rétrospective sur les 10 dernières années, les différentes activités proposées par le CCAS, thé dansant, en direction des seniors, la journée bleue en direction des seniors, mais également des activités en direction des personnes en situation de handicap. Donc une rétrospective en photo.
Et il y avait de l'ambiance dans les locaux du Faubourg Blanchot où les seniors ont pu participer à différentes activités et se changer les idées dans une ambiance festive tahitienne.
C'est très bien, ça nous change les idées. Parce qu'avec tous les événements qu'on a eus, on n'était pas bien dans notre peau, comme on dit. J'écoute la musique, ça me libère le cerveau.
Ça nous permet de passer la journée tranquille, d'être bien, quoi. On joue au tarot. C'est un jeu très difficile, où il faut avoir de la mémoire. Et comme à nos âges, on manque de mémoire, ça nous permet d'en avoir, voilà.
On joue au trio domino. On est content, très contente.
Pourquoi ?
Je pense qu'on joue au domino, on a de l'ambiance, voilà. Pour nous, les mamies.
C'est bien. On n'aime pas danser parce que j'ai mal à mon genou. De ça, j'aurais dansé.
Et la semaine bleue se poursuit pour le CCAS de la ville de Nouméa. Il organise un autre goûter dansant demain au foyer Nguéa. Jeudi, ce sera les résidences Les Orchidées et vendredi au Cerisier Bleu. Les animations reprennent petit à petit sur le territoire. Après le plein succès de la Foire du Pacifique ce week-end, c'est le 24e Salon des collectionneurs qui ouvrira ses portes vendredi et pour 3 jours dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Plus de 35 collectionneurs y exposeront leurs passions et leurs trésors. Et demain, notre magazine citoyen sera consacré à ce salon. Nous parlerons de cette passion en compagnie de Daniel Miroux et de Jean-Pierre Bressler, les deux organisateurs, mais aussi de 3 collectionneurs, Inès de la Petrona, qui se spécialise dans les cartes Pokémon et les figurines, William Alighieri qui collectionne les coquillages et les tableaux de Nouvelle-Calédonie et Pascal Riegenbach, amateur de modèles réduits. Un magazine citoyen spécial collectionneur à suivre demain à partir de midi sur RRB.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, nous avons parlé golf dans le MAC des sports ce midi, Charlotte Coulson.
Et qui de mieux que Jean-Benoît Peudetour, président de la Ligue calédonienne, pour parler de golf. Nous avons parlé avec lui des golfeurs et golfeuses calédoniennes qui performent à l'international. Et parmi ces golfeurs, Ariane Klotz notamment, qui intégrera la saison prochaine l'élite du golf européen. Une fierté pour Jean-Benoît Peudetour.
Ah ben complètement. Ariane, ça va devenir la première calédonienne à intégrer une première division. Donc forcément, ça ne peut faire que notre fierté. Hein. Donc elle est issue du golf de la Wingui, elle a été bien formée par les enseignants du territoire. Et donc pour ça, on ne peut que valoriser le travail effectué depuis plusieurs années.
Et des Calédoniens qui brillent en Europe et dans le monde, forcément c'est une bonne chose pour l'image du golf sur le territoire. Et malgré les mois d'émeute, les golfeurs continuent de répondre présents.
On a essayé avec les clubs, le soutien des associations, le soutien des gestionnaires de parcours, de remettre en place des tournois. Et puis finalement, les golfeurs avaient très envie de jouer, de se dégourdir les jambes. Et pour nous, pour le coup, ça a été plutôt pas mal. On a fait un beau tournoi de reprise, donc l'Omnium de Tina. Et aujourd'hui, on a une centaine de licenciés en moins par rapport à N-1. Mais quelque part, ce n'est pas dramatique puisqu'il reste encore la fin d'année et on sait qu'elle peut nous rapporter quelques licences.
Et parmi les nombreux projets mis en place par la Ligue calédonienne, il y a le développement du golf chez les jeunes pour passer la barre des 300 licenciés jeunes.
On va essayer de développer le golf scolaire, mais sur une base un peu d'initiation. On est en train d'acheter du matériel pour justement aller dans les écoles, faire découvrir un plus grand nombre, parce que c'est vrai que la contrainte aujourd'hui, c'est de déplacer une classe de 27, on va dire, pour aller d'une école sur un golf. Donc aujourd'hui, on va essayer de, peut-être de faire le contraire. Et puis plus on parlera de leurs aînés, entre guillemets, puisqu'on a quand même des beaux exemples de réussite. Hein. On met des paillettes dans nos jeunes sur le territoire et on leur dit « Regardez, vous pouvez aller là-bas, tout est possible. Le rêve calédonien. »
Et Jean-Benoît Peudetour, président de la Ligue calédonienne de golf, un Mac des Sports à retrouver dans son intégralité sur notre site internet www.rrb.nc.
Et puis en sport toujours, il y avait de la voile ce week-end sur le territoire Charlotte.
Oui, samedi s'est déroulée la 7e et dernière régate du challenge monotype J70, une compétition organisée par le Cercle Nautique Calédonien. Et pour cette dernière épreuve, donc, les trois équipages présents représentent le podium du challenge, les équipes les plus engagées depuis le début de l'année. Samedi, les manches sont déroulés en baie des Bœufs, en face de Nouville, dans d'excellentes conditions. Et pour cette journée de course, c'est l'équipage 20 cm qui s'impose devant les jeunes de l'école de voile sous le nom de Rasta Rocket. L'équipage Keep Cool complète quant à lui le podium.
Merci Charlotte Coulson. Les 18h10, on va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est bien sûr avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur la côte est, la pointe sud est aux loyautés. Des nuages circuleront avec parfois une averse faible. Ailleurs, les nuages dissiperont et la nuit deviendra faible, bien étoilée. Sur la côte ouest, le vent deviendra variable faible, avec toutefois des accélérations à 15 nœuds possibles dans certaines vallées exposées. Sur les autres régions, il soufflera d'est-sud-est entre 10 et 15 nœuds. Les températures varieront entre 14 et 17 degrés dans l'intérieur des terres et de 17 à 21 degrés ailleurs. Demain matin, sur le nord, reste à pointe sud et aux loyautés. De belles éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux. Ailleurs, le ciel sera bien étoilé. Le vent d'est à sud-est soufflera de 10 à 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur le nord-est et la pointe nord.
Merci Nicolas, on retient donc les petits passages nuageux. Il est 18h11, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.